Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de podcast de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Je me présente Caroline Coulombe, chercheure à l'OCA. Pour ce deuxième balado, nous allons échanger avec Alexandre Bédard, chercheur à l'OCA, et avec M. Plun Prim, directeur du Cambodian Living Arts à Phnom Penh, au Cambodge. Tous deux sont co-auteurs de l'article COVID-19, l'art et la culture comme moyen émergent post-crise. Cet article, vous le trouverez sur notre site Internet de l'OCA. Donc, bienvenue parmi nous. Nous vivons une situation sans précédent. L'histoire en a connu de différentes versions de crises, de pandémies, d'enjeux humanitaires importants. Chacune a été exceptionnelle à sa façon, dans sa perspective, dans son contexte culturel. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on regarde le voisin, on regarde les autres pays, on essaye de comprendre ce qui se passe ailleurs, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour l'adapter dans notre contexte. Alexandre et Plun nous proposent en fait de regarder les meilleures pratiques de ce qui s'est mis en place au Cambodge pour voir si on ne pourrait pas y trouver une réponse, en particulier dans le phénomène qui est supporté par l'art et la culture. D'abord, j'aimerais poser une question à Alexandre. Pourquoi est-ce que vous proposez l'art et la culture comme un moyen émergent, potentiel, de se sortir de la crise du COVID-19?
D'abord, il faut comprendre que l'art et la culture, ce sont des leviers de développement à différents niveaux. Développement social au point de vue d'une construction identitaire, développement communautaire, on voit que ça peut aider à briser l'isolement dans le cas de la pandémie actuelle, et aussi développement citoyen, où ça permet de développer la créativité et même jusqu'à une pensée transversale. Il faut comprendre qu'en temps de guerre et en temps de crise, souvent l'art et la culture, qui sont des piliers importants de nos sociétés, sont durement touchés, voire parfois stratégiquement détruits. Faisons la nuance, par contre, dans la situation actuelle, ça n'a pas été une volonté de détruire l'art et la culture, mais plutôt un besoin pour protéger la santé et la sécurité des citoyens. Hein? L'idée étant de fermer les salles de spectacle, les salles de cinéma, interdire les rassemblements de masse, arrêter les festivals d'été, ralentissement du tourisme, tout ça dans le but d'éviter la propagation du virus. Mais tout ça se fait en sorte que les arts vivants, les arts visuels, le patrimoine, le tourisme sont parmi les plus touchés dans nos industries et seront probablement parmi les dernières à rouvrir. Au final, on ne croit pas qu'il y a une solution pour remédier à la situation. Il faut d'abord effectivement penser à la santé et à la sécurité des gens, mais en même temps, on croit qu'il faut se poser des questions à savoir comment la culture, comment aider ces industries culturelles et créatives. Rappelons-nous, il y a quelques temps, que c'était la semaine de la santé mentale. Et on sait que l'art et la culture ont directement un impact sur la santé mentale des gens. Si en ce moment, on co-crée des réponses plus ou moins adaptées, on fait des essais-erreurs dans la réouverture, dans le déconfinement, force est de se demander, mais comment aider l'art et la culture et comment aider la population à travers l'art et la culture à s'en sortir? L'idée ici, c'est d'explorer ce moyen-là émergent pendant et après la crise.
Alors, ce que j'en comprends dans votre article, c'est que vous vous inspirez du contexte cambodgien pour en tirer certaines leçons, certaines pratiques. Est-ce que, Plun, vous pourriez nous en parler davantage?
Merci, Caroline. Je dirais que d'un point de vue systémique, lors des conflits, la destruction des symboles puis des artefacts culturels fait partie intégrante des conséquences. Souvent, je veux dire, c'est très clair, l'opprimant, soit-il un autre pays ou un dictateur, cherchera à briser les racines culturelles de la société opprimée afin de la déraciner de son identité, de sa culture, pour instaurer sa vision sociétale. Au Cambodge, suite au génocide entre 1975 et 1979, puis jusqu'à la dernière période des Khmers Rouges, en 1997, les arts et la culture avaient presque entièrement disparu. Tout comme les artistes qui ont été tués, puis près de 20 % de la population qui fut exterminée par le régime de Pol Pot. C'est entre le 9e et le 13e siècle, au cours de l'âge d'or, que l'Empire Khmer, que les arts et la culture se sont intégrés à la société par le biais de la religion, puis des rites, des cérémonies, des coutumes. Toutefois, cette richesse culturelle cambodgienne, qui avait une tradition orale très, très forte, fut grandement affectée par la guerre puis le génocide récent.
Pourriez-vous nous en dire davantage, en particulier sur Cambodian Living Arts, l'institution que vous dirigez et qui a joué un rôle important là, comme levier positif autant pour les individus que pour votre société?
Dans le fond, on allait perdre notre culture avec le génocide puis sous le régime des Khmer Rouges. Donc, on est reparti presque avec rien du tout. C'est notre fondateur qui s'appelle Aung Chan Pon qui a survécu les Khmer Rouges puis qui a fondé en 1998 un premier programme qui avait appelé ça le programme des maîtres performeurs cambodgiens qui est devenu aujourd'hui Cambodian Living Arts. Lui est né au Cambodge d'une famille d'artistes. Il a réussi à s'échapper des Khmer Rouges puis est allé se réfugier dans les camps de réfugiés en Thaïlande. C'est là qu'il s'est fait adopter par une famille américaine puis il a émigré aux États-Unis. Il a commencé à travailler avec justement les réfugiés cambodgiens, asiatiques dans la région de Boston comme travailleur social puis il a décidé de revenir au Cambodge. Donc c'est là que Cambodian Living Arts est né. Aujourd'hui, Cambodian Living Arts ça regroupe plusieurs centaines d'artistes, une cinquantaine d'employés. Puis on travaille, nos programmes principaux, c'est le développement et l'éducation des arts, la protection du patrimoine. On s'est accentué sur le développement aussi des jeunes leaders culturels, puis aussi regarder sur le développement des marchés, puis le développement aussi la création de réseaux culturels, qui pour nous est importante. Donc c'est une organisation sans but lucratif. Puis on a choisi l'art et la culture comme levier afin qu'on puisse remplir nos objectifs de sauvegarder les traditions, redonner un sens à la communauté, un peu ce qu'Alexandre a dit un peu auparavant, puis permettre à former des jeunes afin qu'ils contribuent par le biais de l'art et la culture à l'essor du développement du pays. Je veux dire, post-crise, post-génocide, dans le contexte du Cambodge, les arts et la culture, ça donne une réponse. Et pour nous, moi, ce que je pense aussi fortement, c'est que tu sais, quand on vit ce genre de crise, l'imagination devient tellement importante. Pouvoir imaginer un futur, puis un demain, puis être créatif, puis regarder justement comment on peut réinventer les modèles existants, créer une société plus résiliente. Donc, vraiment, je pense que c'est là l'important de l'investissement qu'on fait à travers les jeunes générations, mais aussi la continuité de ces transmissions.
Lune, vous nous donnez l'exemple de Cambodian Living Arts. Alexandre, lui, dans le cadre de son projet de recherche, on sait, devait évaluer plusieurs autres zones géographiques. Est-ce que vous avez, dans votre expérience professionnelle, vu d'autres exemples à nous proposer, desquels s'inspirer?
Oui, certainement, Caroline. Un des beaux projets que j'ai vu aussi, c'est en Afghanistan. C'est l'Institut national de la musique d'Afghanistan. C'est une école qui est ouverte, qui est mixte justement pour garçons et filles, parce que les filles en Afghanistan, on sait que l'accès à l'éducation est très, très limité. Puis eux, justement, l'organisation a démarré en 2010 par un ami à moi aujourd'hui qui s'appelle Ahmad Sarmas. Puis il utilise la musique comme vecteur justement d'éducation, puis aussi retrouver leurs racines culturelles, parce que comme les Khmer Rouges et Pol Pot, les talibans, eux, dans les années 90, quand ils ont contrôlé l'Afghanistan, ils avaient banni la musique, toute forme musicale, toute forme d'expression. Donc c'est assez similaire de ce qui s'est passé au Cambodge. Puis là, il y a ce beau projet qui fait revivre la musique traditionnelle afghane, mais aussi l'expression musicale des jeunes afghans. Donc, ça, c'est un super bel exemple aussi.
Merci beaucoup.
C'est très intéressant, Caroline, ce que Plume avance, parce que lorsqu'on s'appuie, il y a plusieurs définitions de la culture, mais lorsqu'on s'appuie sur celle du sociologue Guy Rocher, qui présente la culture comme un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées. Et tout ça, donc, nous permet de regrouper les gens autour de ces manières de penser, sentir, d'agir, dans le but d'amener, d'un point de vue symbolique et subjectif, les gens autour d'un projet commun. Ça nous rappelle combien c'est important, et exactement ce que Cambodian Living Arts fait, d'enseigner et de promouvoir la culture auprès de la population parce que ça permet de se regrouper, se retrouver, s'identifier. Et quoi de plus pertinent en ces temps de confinement que d'en prendre conscience et de prendre un arrêt pour bien se poser les bonnes questions?
Alors du coup, Alexandre, pouvez-vous nous dire en quoi, par exemple, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral pourrait s'inspirer de cet exemple-là en particulier que vous avez étudié pour pouvoir proposer des pistes de solutions aux citoyens?
Je pense que d'emblée, j'aimerais rapporter que le gouvernement, pour moi, a quand même pris la bonne démarche, soit de se préoccuper de la santé et de la sécurité de la population. Mais en parallèle, le gouvernement, selon moi, a un devoir de préserver. C'est ce qu'il fait. Ils ont mis en place des programmes de subvention pour aider les organisations, mais uniquement d'un point de vue de préserver. Or, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut s'asseoir avec les organisations, il faut s'asseoir avec les chercheurs et il faut travailler de concert tout le monde ensemble, tous ses partenaires, pour trouver des solutions créatives, innovantes, pour contrer la situation actuelle et essayer de rassembler les gens, mais en respectant la distance, en respectant les besoins sanitaires, etc. Je pense que en l'absence, et là je vais paraphraser ce que Yannick Nézet-Séguin écrivait dans Le Devoir du 15 avril dernier, en l'absence d'une expérience humaine en direct, au lieu du silence, il faut prendre le temps de trouver des solutions qui permettent d'apporter la culture aux gens. Je crois donc que les gouvernements et les chercheurs doivent travailler, c'est ce que je disais, de concert. Je salue ce qui a déjà été mis en place par différents groupes, quels qu'ils soient, mais je pense qu'on peut faire plus. Notre nouvelle réalité post-COVID va changer les interactions entre les communautés. Le tourisme va devoir se redéfinir. Moi, je pense qu'il va y avoir une augmentation du nationalisme. Et l'Observatoire, l'OCA, dans lequel je participe, croit à la lumière des résultats préliminaires qu'il faut continuer à investir dans les arts et la culture plus que jamais.
Avant de terminer, est-ce que Plun ou Alexandre, est-ce que vous aimeriez avoir un mot de la fin pour pouvoir compléter votre propos?
Peut-être que je vais être le premier. Dans un contexte COVID, je veux dire, on l'a lu un peu partout, c'est une guerre invisible qui touche tout le monde aujourd'hui, mondialement. Je pense que, justement, lorsqu'on est tous confinés, on utilise notre imagination pour regarder, pour créer un futur. Puis j'espère que, justement, le fait de pouvoir garder des communications, regarder au-delà de ce qu'on est en train de vivre, puis de trouver des solutions pour demain, tous ensemble, même si on est déconnecté, je pense que c'est vraiment important parce que l'imaginaire et l'expression doit continuer.
Merci, Alexandre.
De mon côté, Caroline, j'ajouterais que le peuple québécois est très, très créatif et je pense que c'est le moment de leur donner l'occasion, de donner l'occasion à nos organisations culturelles d'en faire preuve. Si on est capable de faire une manifestation avec 2 mètres de distance, comme on l'a vu aux nouvelles, je pense qu'on est capable de faire des rassemblements civils, des rassemblements organisés pour permettre aux gens de vivre des moments culturels forts, identitaires, et je pense que c'est très important qu'on aille de l'avant avec de tels projets.
J'aimerais vous remercier, Plun et Alexandre, de votre présence avec nous. Moi, ce que je retiens de cette discussion et de cet article, c'est que finalement, l'art et la culture, c'est vraiment fondamental. C'est un pilier humain, c'est un pilier sociétal qui nous permet d'ouvrir des dialogues, de potentiellement guérir des blessures, guérir de l'anxiété, guérir une histoire, d'imaginer un futur. Puis de créer une société qui est résiliente à travers des symboles communs. Et je retiens aussi beaucoup de co-création. Donc, c'est très inspirant. Je vous remercie de votre présence. À tous nos auditeurs, j'aimerais vous inviter à aller voir et lire l'article au www.okcah.ucam.ca. Donc, www.okcah.ucam.ca. On est aussi sur Facebook, Twitter. On a une infolettre auquel vous pouvez vous inscrire. Merci beaucoup à vous. Merci à tous nos auditeurs.